RFI, 8h30 à Paris et Khartoum, 6h30 à Bamako. Et en temps universel, bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
Au Mali, l'appel à la jeunesse face à la restriction de l'espace de libre expression.
Deux jeunes membres de partis politiques tentent en tout cas de parler à leur classe d'âge pour mobiliser au-delà des cercles habituels. Décryptage également dans cette édition des tensions qui demeurent au Burkina Faso au sein de l'armée une semaine après l'annonce d'une tentative alléguée de coup. Et alors que la stratégie anti-djihadiste ne semble pas faire l'unanimité. L'opposition bissao-guinéenne fait un premier pas vers l'union, mais le chemin est encore long. Au Sénégal, Moustapha Niass tourne, lui, la page de sa riche vie politique. On va en parler. Le Sénégal, où étaient rassemblés ces derniers temps les acteurs de la digitalisation dans le domaine de la santé en Afrique. Les pays les plus avancés ont des leçons à donner. On va en égrener quelques-unes, c'est notre dossier dans 10 minutes. Et d'abord donc le Mali, où ces jeunes leaders politiques et de la société civile se sont réunis à Bamako, c'était hier. Ils ont rendu public un manifeste. Leur objectif, c'est de rassembler, je vous le disais, la jeunesse en dépassant le cadre traditionnel des dizaines de partis politiques que compte le pays. La crainte majeure, une possible dissolution des formations politiques par la junte au pouvoir. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Les initiateurs du manifeste sont des jeunes issus de la classe politique malienne et de la société civile. Aux côtés de responsables de plusieurs dizaines de partis politiques, ils entendent mobiliser la jeunesse de la société civile de leur pays. Objectif, ratisser l'art pour défendre, disent-ils, face à la junte, les libertés fondamentales. Amidou Doumbouya, l'un des jeunes signataires du manifeste.
En fait, nous avons décidé quand même, en tant que jeunes politiques, en tant qu'avenir du pays, à réaffirmer notre volonté et notre attachement à la pluralité politique, à la démocratie, à la liberté d'expression et au jeu démocratique comme cela doit se faire dans notre pays, comme cela a été toujours le cas.
Le débat du jour est celui de la possible dissolution des partis politiques par la junte. Le nouveau regroupement des jeunes est absolument contre. Et pour se faire entendre, il va mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, non seulement pour défendre le multipartisme, mais pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ces jeunes leaders, pas question de laisser le terrain à, je cite, un groupuscule de jeunes à la solde de la junte. Fin de citation. Ces derniers ont entamé une campagne pour appeler à dissoudre les partis politiques, probablement avec le soutien des autorités maliennes. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Burkina Faso, depuis que la junte a annoncé la semaine dernière avoir déjoué un coup d'État, la situation au sein des forces armées reste tendue. Je vous le disais en titre, des observateurs nous disent que derrière le calme apparent se cachent en réalité des divergences profondes sur la conduite des opérations de lutte anti-djihadiste. Alors qu'une réunion devait se tenir à l'état-major burkinabé, les officiers qui étaient censés s'y rendre n'ont jamais répondu à l'appel. Les explications d'Alexis Guilleux.
Prévue mardi puis reportée mercredi, la réunion n'a finalement jamais eu lieu, expliquent plusieurs sources. En revanche, certains proches du palais du Mogonaba ont observé dans la semaine un ballet d'hommes en treillis et d'épouses de militaires et de civils enlevés. Le roi des Mossi, Ouagadougou, est connu pour son rôle de médiateur dans de nombreuses crises au Burkina Faso. La tension s'est également illustrée jeudi au palais présidentiel autour d'un conseil des ministres placé sous haute sécurité. Selon plusieurs habitants de Ouagadougou, des chiens renifleurs ont sillonné le périmètre le temps de la réunion et des hélicoptères des forces armées ont été aperçus dans la zone à plusieurs reprises. Hier, dimanche, autre fait inhabituel, des riverains assurent que deux véhicules blindés étaient positionnés devant le camp général Babassi, au sud de la capitale. Au regard de la situation, les soutiens du régime appellent à manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce mercredi. Pour les organisateurs, cette mobilisation a pour but de dénoncer les ingérences occidentales en réaction aux récentes déclarations du général Michael Langley, le leader du commandement américain pour l'Afrique, qui début avril a accusé le pouvoir en place d'utiliser l'or du pays au détriment de la population.
Explication signée Alexis Guilleuf.
Au Togo, on a célébré hier le 65e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance.
Une fête marquée, Andréane, par un défilé militaire et civil. C'est du classique, plusieurs heures sur la place des fêtes de Lomé 2, non loin de la présidence de la République. Quant au meeting populaire organisé à la plage par l'opposition, il a été reporté signé Dier. RFI Lomé, Peter Sassou Dobé.
Pendant près de 3 heures, tous les corps de l'armée, gendarmerie, air, marine et terre, ont paradé sur un pas cadencé devant le président Faure Gnassingbé et les personnalités rassemblées sur la place des fêtes de Lomé 2. « À l'occasion de cet anniversaire, un meeting populaire était prévu par les organisations de la société civile et quelques partis de l'opposition sur la plage de Lomé. Il a été reporté sine die à la demande du ministère de l'administration territoriale. Une injustice, selon le professeur David Dosset, porte-parole de la coalition Togodoubou.
On a le sentiment que lorsque ce sont certains groupes qui organisent des événements, ils ont toute l'autorisation. Et c'est pour cela donc que certains ont été autorisés à ériger des apatams à côté de là où nous avions prévu faire notre manifestation. Et que quand c'est d'autres groupes, c'est surtout des interdictions que ces groupes essuient.
C'est la dernière célébration de la fête de l'indépendance de la 4e République togolaise. La 5e République doit définitivement entrer en vigueur dans les prochaines semaines, le temps de mettre en place les nouvelles institutions issues de la Constitution du 6 mai 2024. Peter Sassoudoubé, Lomé, RFI.
Il demande désormais une loi d'amnistie en Côte d'Ivoire. Les soutiens de Charles Blé Goudé regrettent la décision de justice de vendredi.
Une décision qui a vu l'ultime recours de l'opposant rejeter l'ancien proche de Laurent Gbagbo, demander sa réintégration sur les listes électorales à moins de 6 mois de la présidentielle. L'ancien leader étudiant d'il y a 20 ans est inéligible pour rappel depuis une condamnation par contumace en 2019.
Six chefs de file de l'opposition bissau-guinéenne prêts à s'unir face à Oumaro Sissoko Embalo.
C'est pas encore fait, mais une première étape a été franchie hier à Paris, après 3 jours de discussions dans la capitale française. Le contenu des discussions n'a pas été publicisé, mais Flavio Vatica Ferreira, député du parti d'opposition PAIGC, nous dit ce matin que cette première pierre d'un dialogue politique plus global entre les opposants bissau-guinéens doit permettre de pointer du doigt de manière plus efficace les dangers qui pèsent, selon lui, sur la démocratie en Guinée-Bissau. On l'écoute.
Le mandat de président de la République est terminé, donc il est plus légitime. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Le tribunal suprême de justice n'a pas de président. La CNE est caduque depuis 3 ans. D'abord, il faut régler ce problème-là avant de penser réellement aux élections. Parce que si on part aux élections aujourd'hui telles que la Cour suprême est, telles que la CNE est, il n'y aura pas d'élections libres, justes et transparentes. Une fois réglé ce problème-là, c'est là qu'on passera pour discuter le problème des élections présidentielles et législatives. Bien sûr qu'on en a parlé, mais c'est pas ça la base de nos discussions. Nos discussions aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communauté internationale nous aide dans ça? Si c'est pas le cas, nous, au niveau interne, pour qu'on puisse faire quelque chose. On est sorti avec un accord, avec un plan d'action que je ne pourrais pas vous dévoiler. Et une chose est sûre, c'est que on est tous d'accord de faire quelque chose pour que on puisse changer la donne en Guinée-Bissau actuellement.
Des propos recueillis par Paul Lorgerie. Au Sénégal, un passage de témoin au sein du parti AFP, l'Alliance des Forces de Progrès. Le parti tenait son congrès ce week-end et Moustapha Niass, figure emblématique du paysage politique sénégalais, cède la tête du parti de la formation à son successeur Mbaye Ndiaye. Il est député maire de Ngoundiane, près de Thiès et Dakar. À 85 ans, Moustapha Niass tourne donc une page d'une longue carrière politique. Il a collaboré avec Senghor, avec Diouf, avec Wade, avec Macky Sall. Après une rupture avec le Parti Socialiste, et Ousmane Tanor Dieng, il a fondé l'Alliance des Forces de Progrès en 99. Il est devenu Premier ministre, plus tard président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2022. Il a participé en tout à 5 présidentielles. Son parti était ces derniers temps en grande perte de vitesse. Son retrait s'inscrit dans un contexte de profond renouvellement de la classe politique sénégalaise. C'est ce que retient Moussa Diop. Il est professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
On peut le rappeler, à la première alternance, il avait obtenu 11 députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a une érosion de son parti au regard, mais d'ailleurs, de l'évolution politique du Sénégal. La plupart des partis qui étaient au pouvoir ont perdu de leur influence. C'est valable pour le PS, le PDS également. Ce sont des partis qui ont perdu leur influence en quittant le pouvoir. Il y a un tournant et il faut s'adapter à ce tournant. Le passage de relais de Moustapha Niass montre bien les exigences de l'espace politique sénégalais, c'est-à-dire la nécessité de changer des partis politiques, de mettre des personnalités avec de nouvelles idées, des jeunes. Le changement à la tête des partis, je ne sais pas si ce sera suffisant ou pas, mais dans tous les cas, les défis sont nombreux Et il va falloir effectuer beaucoup de changements au niveau du discours également et au niveau de l'action politique pour pouvoir mobiliser autour d'un certain nombre d'enjeux.
Le professeur Moussa Diop, interrogé par Juliette Dubois.
Avoir accès rapidement et à distance au dossier médical d'un patient, si vous êtes médecin, voilà qui peut vous intéresser. C'est l'un des enjeux de la digitalisation dans le domaine de la santé.
Et c'est le dossier de ce journal, Andréane. Alors que des spécialistes du secteur viennent de se retrouver à Dakar, ils sont venus d'Éthiopie, du Mali, du Sénégal, du Rwanda. Ils étaient à l'Institut Pasteur pour évoquer les progrès de leurs pays respectifs. Les écueils aussi rencontrés dans cette expérience retour d'utilité publique finalement, Gwendal Lavina.
Les progrès ces dernières années dans le domaine sont immenses, insiste le docteur Serge Bataliak du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
Beaucoup de mécanismes se sont mis en place, notamment de télémédecine, de téléconsultation. Vous êtes dans un village éloigné, mais vous êtes capable de bénéficier des soins de cardiologie, des soins très pointus, même étant à distance. Un patient qui se retrouve dans une ville, un autre soignant peut avoir accès au dossier et donc apporter les processus cliniques qu'il faut pour améliorer la santé de la personne.
Mais ce processus ne bénéficie pas seulement aux patients, explique le docteur Abdourahman Sow, directeur de la santé publique à l'Institut Pasteur de Dakar.
Cette digitalisation aujourd'hui constitue une opportunité pour renforcer le système de santé, mais aussi c'est un outil important de planification sanitaire qui nous permet vraiment de baser nos décisions sur des données probantes.
Parmi les pionniers sur le continent, le Rwanda, dès le début des années 2000 et sans trop de moyens, Jean-Marie Vianney du département de l'informatique de santé de l'Université du Rwanda.
Dans mon pays, on a commencé avec ce qu'on appelle open source, les applications dont le source code est gratuite, avec un serveur qui peut coûter 10 000 dollars américains. Une institution publique ou privée peut commencer avec ça.
Au Sénégal, les autorités espèrent faire un modèle de leur programme de digitalisation du système de santé tout juste présenté et dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
On le voit, il y a des enjeux, de nombreux enjeux à cette digitalisation dans le domaine de la santé. C'est un domaine sensible que celui de la santé. Beaucoup d'États africains s'inquiètent, et on le comprend, de la protection des données. Mais pour le professeur Cher Oumar Bagayoko, directeur du Centre d'innovation et de santé digitale à l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako, les pays devraient surtout réfléchir à l'interopérabilité de ces données, comprendre le partage sous une forme commune et claire. On l'écoute.
C'est le plus grand défi pour que on évite un certain niveau de fragmentation. Parce que les pays qui sont développés ont atteint ce niveau, mais sont arrivés à mettre en place des cadres d'interopérabilité et ont plus de moyens que nous. Donc au départ, le terrain est plus ou moins vierge. Il faut mettre en place des fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, je pense qu'il y a le cadre d'interopérabilité du système d'information de santé qui va permettre de définir les règles d'échange des données que tous les systèmes doivent utiliser pour permettre une meilleure prise en charge du patient, mais le pilotage de la santé publique, quel qu'en soit le niveau de la pyramide sanitaire. Alors que ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de développer des services numériques de plus en plus. Le soubassement n'est pas là. Un de ces soubassements, par exemple, c'est l'identifiant national de santé. Sans identifiant national de santé, il est très difficile de dire qu'on va avoir les données qui sont collectées de façon cohérente parce qu'on va avoir des redondances des données en fonction du déplacement du patient chez un fournisseur de services à un autre ou d'un niveau de la pyramide sanitaire à un autre.
Et c'était un dossier signé Gwendal Lavina. Vous le retrouvez bien sûr sur notre appli RFI. Un petit mot de sport, Andréane, avec la victoire 4 buts à 1 hier de l'Olympique de Marseille et ce qui est peut-être le but de l'année en Ligue 1 de foot française, le but de l'Algérien Amine Gouiri sur cette retournée. Il a signé d'ailleurs un triplé dans l'actu sportive du jour. Il y a également le début du Tour du Bénin aujourd'hui.
Et on en parle dans le journal des sports avec Victor Missistrano dans une petite heure. Merci Vincent Dublange.